Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire. Avec Olivia de Lamberterie, Duel, qui nous revient auréolée du prix Renaudot de l'essai pour son livre « Avec toutes mes sympathies » et qu'on est ravis de retrouver à la tribune avec Frédéric Becbédé du Figaro Magazine qui publie « La frivolité est une affaire sérieuse » à l'Observatoire, recueil comme par hasard de 99 chronique qui lui ressemble, avec Arnaud Vivian, là, qui ne publie rien ces jours-ci, mais qui est quand même de Transfuge, de Regard et de la revue Charles, et avec Patricia Martin, des petits matins de France Inter du week-end que vous écoutez forcément. On parle ce soir du prix Goncourt de l'année, c'est-à-dire celui de Nicolas Mathieu, mais également des livres de Murakami, de Jane Birkin, de Pauline Delabroix à l'art, ainsi que de Benoît Dutertre. C'est un programme quand même très varié. Dans le courrier de la semaine, eh bien, Alice de Genève s'adresse à Arnaud, pourquoi déboulonner la vraie vie? Aux éditions de l'Iconoclaste, Adeline Dieudonné ouvre la grosse boîte de l'enfance, celle que l'on traîne parfois avec peine, le rythme. Et cette héroïne combattante en font un récit efficace et mutin. Je vous propose, Arnaud, de nous réconcilier autour d'une bonne glace. Et d'ici là, je vous poste quelques coloriages. Il paraît que ça détend. Christine Fink a aimé aussi La vraie vie d'Adeline Dieudonné, un premier roman grave et magnifique. Une petite merveille, cet amour menacé par la noirceur et la violence familiale m'a beaucoup ému. Madame Paul Riffard de Grès s'amuse d'un joli lapsus d'Arnaud. Arnaud Vivian peut-il situer pour moi, qui ne l'ai pas trouvé dans le roman d'Adeline Dieudonné, La vraie vie, le moment de la défloraison et expliquer pourquoi des fleurs qui se fanent le mettent dans une telle rage? Mais peut-être a-t-il voulu dire défloration. Béatrice Roussel interdit à Patricia Martin de persister dans le dénigrement des livres d'Elena Ferrante. Elle a reconnu elle-même lors de la critique du tome 4 qu'elle n'avait lu que le 1. Alors de grâce, lorsqu'on n'a pas lu ou insuffisamment, on ne se permet pas, Patricia Martin, de juger.
Je ne me permettrai plus et Frédéric Becbédé vient de me taper. Oui, j'ai eu ma punition.
Et c'était à propos, je le rappelle, du roman de Zadie Smith qui avait un peu emprunté à la structure d'Elena Ferrante. Fabien Adalbert est en colère contre Frédéric. Becbédé a dit tout le bien qu'il pensait de Babylon Express, de Mathilde Marie de Malfilâtre. Aux éditions du Dilettante, c'est elle qui est flic, non, qui est gendarme.
Bien sûr.
Voilà.
Oui. Lieutenant de gendarmerie. Enfin, elle l'était.
Je l'ai lu et si j'avais su, je me serais abstenu. Livre mal écrit, des phrases courtes, comprises entre 1 et 10 mots. Une histoire qui se résume à un environnement de drogués et qui ne parle à personne, sauf si vous en faites partie. Bref, une déception.
Moi, je trouve que ça donne envie de le lire.
Et enfin, Olivier Leroy s'étonne que Pierre Guyotat ait reçu le prix Femina spécial pour l'ensemble de son œuvre, résultant d'un jury de femmes à l'heure de Bitou ou de Balance ton porc. Cela relève du paradoxe. Rappelons l'appréciation de Benoît de Groult dans Ainsi soit-elle, marre de ces vieux schémas malades qui s'efforcent de mettre en scène l'éternelle panoplie du petit sadique dans des œuvres rétrogrades où les femmes ne cessent d'être prisonnières et bafouées par des mâles nés de rêves mégalosexistes. Ça vous inspire quelque chose, cette... Je n'ai reçu d'autres, à propos de Guyotat.
Ce qui me fait rire, c'est Benoît de Groult en lectrice de Pierre Guyotat. Ça, déjà...
À l'époque, c'était...
Ça me fait assez rire. Et surtout, c'est tellement faux. Selon sa biographe, il y a eu une seule biographie jusqu'à présent de Pierre Guyotat, qui est quand même l'un de nos plus grands écrivains vivants. il n'aurait eu qu'une seule relation sexuelle. Et elle a beaucoup enquêté, puisque c'est une femme, en l'occurrence.
Une seule?
Oui, il n'a eu qu'une seule relation sexuelle dans sa vie. Et de toute évidence, on n'est même pas sûr que ça soit, d'ailleurs, avec une femme. Donc, c'est ce propos. Et encore une fois, c'est attesté.
Ah, bah,
et lui-même en a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, il en parle encore dans ce dernier livre, Idiotie. Il y a un rapport. Lui, il a toujours expliqué qu'il se masturbait en écrivant, mais c'était la seule activité sexuelle. Justement, la création l'empêchait, finalement, d'avoir une activité sexuelle. Il a tenu de nombreuses conférences et des interviews à ce sujet. Donc ça n'a strictement aucun sens. Eh bien, s'il y a quelqu'un de vraiment asexuel dans la littérature, c'est Pierre Guyotta.
Eh bien, c'était la réponse à notre auditeur. Et on commence avec le roman qui a obtenu le prix Goncourt, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu chez Actes Sud, où cet auteur, d'ailleurs né à Épinal en 78, avait déjà signé un premier livre, c'était il y a 4 ans, Aux animaux, la guerre, qui est actuellement, je crois, diffusé en série à la télé. Un roman de 430 pages qui raconte la jeunesse des années 90 en Lorraine, dans la région imaginaire des Langes, région de hauts fourneaux qui ne brûlent plus, de rouille, de chômage, et où, écrit Mathieu, on est licencié, divorcé, cocu ou cancéreux. Les héros de ce roman politique hein, et sociale sont des ados, dont Anthony, 14 ans, fils de prolo, Yacine, 17 ans, fils d'immigré, mais aussi Steph et Clem, deux filles d'un milieu, disons, plus aisé. Un roman découpé en 4 étés, qui commence en 92, se termine par le France-Brésil de 98, cette grande et très provisoire illusion du vivre ensemble. Bon Goncourt, bon livre, je vous pose la question à tous, Olivia.
Bon Goncourt, je ne sais pas, je pense que le bon Goncourt aurait été Philippe Lanson.
On va pas recommencer.
Voilà. Donc je ne refais pas le match.
Oui. Ni le masque.
Ni le masque.
On l'avait dit au masque. Ça.
Exactement.
Il a obtenu le Fémina et le Renaudot spécial.
Oui, c'est heureusement d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un bon livre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve que c'est un livre presque sur le rien, sur l'ennui, sur le désœuvrement, sur ce qu'on a quand on n'a vraiment plus rien. Très souvent, d'ailleurs, les gamins, quand ils sortent de chez eux, les ados, ils partent et ils disent à leurs parents « je sors ». Et leurs parents leur disent « où vas-tu ?» comme n'importe quel parent. Et ils répondent presque systématiquement « nulle part ». Et je trouve que c'est assez emblématique de cette situation. Et en même temps, ce que je trouve très réussi, c'est qu'il le fait vraiment presque sur le mode du polar. J'ai d'ailleurs vu qu'il avait écrit le livre qu'il destinait comme son premier roman.
Comme aux animaux la guerre, oui.
À la collection noire d'Actes Sud, Actes Noirs, et que son éditeur l'avait fait changer de collection. Et il a vraiment le sens du cliffhanger, comme on dit, chaque chapitre finit vraiment, je trouve, par quelque chose qui te donne envie de continuer à la manière d'une série. Il y a une autre chose que je trouve très réussie, c'est que il y a deux niveaux de discours, hein, puisque lui, il a une langue assez belle, je trouve, Nicolas Mathieu, mais il ne tombe pas du tout dans le piège de faire parler ses héros avec cette langue-là. Et je trouve que la langue, aussi bien d'ailleurs des ados que des parents, me semble très juste. Le père, il dit à son enfant, il lui dit pas « si tu fais des conneries, gare », il lui dit « si tu fais les conneries, gare ». Ce sens de petit détail, je trouve, est génial, et il a le sens du détail.
Donc, bon livre pour toi.
Alors après, c'est un peu long, mais c'est un peu un problème de riche, je trouve, pour ce livre, parce que moi, je trouve qu'on le dévore. Alors, c'est une sorte de page-turner, et puis très émouvant, enfin, j'ai trouvé.
Je trouve que c'est un excellent choix du prix Goncourt. Et d'une certaine manière, moi, j'ai compris, on s'est beaucoup gossé, ou en tout cas étonné de la réponse de Bernard Pivot concernant Bernard Lançon,
Philippe Lançon.
Philippe Lançon, pardon, sur le fait qu'il ne soit pas sélectionné par le prix Goncourt, et en disant que c'est un prix de roman. Je trouve que, justement, là, ce qui a été choisi comme livre, c'est ce qu'on a envie d'appeler maintenant, aujourd'hui, un roman-roman. C'est-à-dire, le terme de roman, il y a tellement d'avatars de l'autofiction au récit autobiographique qu'on a envie de retrouver. Et là, ce qui est fort, c'est qu'il y a des personnages. Une chose, on a un peu oublié que la littérature, c'était aussi de rencontrer des personnages qui sont créés de toutes pièces, auxquels on s'attache. À Anthony, le personnage, on va dire, principal, on s'y attache, mais aussi à Stéphanie, qui fait partie d'une autre classe que lui, etc. Cette région a été très bien balisé d'un point de vue littéraire. La première, d'ailleurs, à l'avoir balisé, c'est Virginie Despentes.
Absolument.
Qui n'est pas pour rien.
Qui en est originaire.
Qui est originaire de cette région, qui n'est certes pas pour rien dans le choix de Nicolas Mathieu, mais souvenons-nous aussi de Aurélie Filippetti, qui a écrit Les derniers jours de la classe ouvrière, et justement, et de Denis Robert aussi, qui a écrit des romans qui se passent dans cette région. Donc on sait, dévasté par la désindustrialisation. Mais la force de Nicolas Mathieu, c'est d'avoir pris la génération d'après. C'est leurs enfants après eux. Pas la génération que racontait Aurélie Filippetti, justement, mais celle d'après. C'est marrant d'ailleurs, parce que les parents, d'un point de vue politique, les parents, dans cette histoire, ont tous un boulot. Ils sont pas au chômage, contrairement à l'espèce de vision un peu parisienne, ils sont tous au chômage là-bas. Non, il y a eu des industrialisations, ils ont tous retrouvé des petits boulots, enfin je parle des parents là. Et donc là, on est c'est leurs enfants et c'est la génération de Nirvana. Il y a une page magnifique dans le livre où ils passent pour la première fois un morceau de Nirvana à la fin d'une boum, et la manière dont Nicolas Mathieu raconte ça, ouais. On voit toute la force. Souvenez-vous, le genre Baise-moi de Virginie Despentes, son premier livre, c'était justement un rapport à Nirvana. Et on voit là cette génération que lui, il a 40 ans, Nicolas Mathieu. Et après, effectivement, il utilise les ressorts, à mon avis, de la série télévisée, comme d'ailleurs Virginie Despentes les a utilisés dans Vernon Subutex. Il a ce côté storyteller à l'américaine qui fait qu'effectivement, il y a des cliffhangers. Et en même temps, c'est un polar, il n'y a absolument pas de meurtre. Il y a une histoire de moto, quoi. C'est
volée,
à peu près.
C'est
une histoire de moto, ouais. Volée. Et en même temps, on est tenu. Il y a, je trouve, un style qui sait en même temps ne pas éclater. Il est au bord, et il y a quelques très très bonnes vannes. À un moment, il y a un ado qui prend pour la première fois de la cocaïne, et Nicolas Mathieu écrit cette phrase que je trouve mais remarquable, qui est digne d'un grand écrivain, et ça lui donnait envie de passer le bac en candidat libre. Voilà, voilà, vous dites, ok, ouais, ouais. Là on a affaire à un grand écrivain.
Il, ouais, a failli d'ailleurs, Frédéric, avoir il a frôlé, et aussi Arnaud, le prix de Flore. Hein,
le prix de Flore, oui.
Comment souvenir,
oui.
Hein.
Oui, ce qui est assez agréable dans la rentrée littéraire, c'est que ça dure longtemps, ça dure 3 mois, et ça laisse le temps au roman de se décanter. Celui-là, moi, je l'avais un peu loupé parce que ça ressemble beaucoup à Fief de David Lopez. Mm-hmm. Donc déjà, c'était l'histoire de jeunes à la campagne qui s'ennuient, qui fument des pétards. Et du coup, je me dis, bon, il refait la même chose. Et pas du tout. C'est extrêmement drôle. J'ai noté des trucs. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches qui rient. Ses parents étaient des cons. Moi, j'aime bien. Les hommes parlaient peu et mouraient tôt. Les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie avec un optimisme qui allait en s'atténuant.
Ouais. Ouais, c'est beau.
C'est, ouais, vraiment un écrivain.
Parents, c'est
un écrivain très sensible, très, ouais, juste, ouais, il l'a dit. Ouais. Et c'est vraiment très, très réussi. Il y a juste une chose à dire, c'est que partout, le livre est présenté comme un roman social sur l'Est de la France. Moi, je vois surtout une bande de jeunes qui ont envie de voir des nichons, de baiser, de boire.
Oui. C'est ta lecture.
Non, mais je veux dire, si on le présente trop comme du Émile Zola, peut-être ça va moins donner envie. C'est rigolo, c'est très
Zola,
vivant.
Il y
a un côté aussi Beavis and Butthead, ou je sais pas, tu vois, c'est cette référence à la musique permanente. D'ailleurs, c'est drôle, ça commence par du Nirvana en 92, puis ça s'achève en 98 avec I Will Survive.
Ouais.
Patricia.
Oui, c'est des ados d'un autre siècle, d'ailleurs, parce que c'est des ados d'avant le portable. Je pense que le portable a changé beaucoup, beaucoup la vie des ados depuis. Le titre est très beau, hein, tiré de l'Ancien Testament.
Très beau titre. C'est ce qu'a raconté Arnaud, hein, c'est les enfants, ouais, après.
Absolument. Dans l'Ancien Testament, enfin, c'est en exergue du livre, c'est une très belle citation. Non, c'est beaucoup d'images, de vibrations, c'est un style. Olivia, tu le disais, il y a un amour de la langue, à la fois instinctif, maîtrisé, en même temps, on sent qu'il est un peu intimidé par la langue. Il y a ce dont vous avez parlé, l'explosion de l'adolescence, la restitution d'un monde de façon très très minutieuse. D'ailleurs, je crois, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il a été greffier dans une autre vie. Donc on sent bien cette espèce de minutie-là. Mais là où je mettrais quand même un bémol par rapport à ce que vous avez dit, c'est que pour moi, un roman, c'est quand même quelque chose, un effet hypnotique. C'est-à-dire qu'on doit être... C'est un lieu de plaisir et c'est vraiment une niche.
Tu n'as pas éprouvé ça ?
Pas tout le temps, et je n'y retournais pas. J'ai dû lire 70 pages la première fois, puis quand j'y suis retournée, je trouve qu'il y a quand même vraiment des longueurs, et je trouve, alors je ne sais pas pourquoi, si c'est le roman qui m'a résisté, si c'est moi qui lui ai résisté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je trouve que dans les dialogues entre ados, il y a des très belles choses sur le, par exemple, les parents qui voient partir leurs adolescents, la porte qu'on peut plus ouvrir comme on veut, la mère qui peut plus entrer dans la chambre de son fils comme elle veut, etc. Tout ça, c'est très juste. Mais entre les ados, moi, j'ai pas du tout marché. Les dialogues entre eux, franchement, ça m'a pas du tout emballé. Et ensuite, je trouve ça trop. Franchement, c'est trop long.
Bon. C'est un peu long, ça c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un bon concours. On peut quand même le signaler. Hein. Il y a des années où c'est moins le cas. Et c'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu chez Actes Sud. Précisément, il a été longtemps sur la sélection du concours. Il a d'ailleurs depuis obtenu le prix des libraires à Nancy. C'est le premier roman chez Minuit d'une jeune femme de 30 ans, Pauline Delabroix-Allard. Ça raconte Sarah, et Sarah qui a, là je cite Pauline Delabroix-Allard, qui a un nez abrupt d'oiseau et des yeux de serpent aux paupières tombantes. Elle est violoniste, virtuose d'ailleurs, avec une personnalité très exaltée. La narratrice, elle est prof et elle a une petite fille. Et son compagnon vient de la quitter et elle tombe folle amoureuse de Sarah. Le roman raconte donc cette passion inédite pour les deux femmes, il faut le préciser, qui connaîtra un dénouement dramatique. Je ne sais pas s'il faut ou non. Non, je ne crois pas le raconter. Non, on ne raconte pas.
C'est d'emblée quand même dit que la mort va s'en mêler.
Mais bon.
c'est la première page. Hein.
Bon. On ne sait pas comment.
Alors, les critiques ont parlé d'Annie Ernaux, d'autres de Marguerite Duras. Pour tenter de définir ce premier roman, il faut dire très osé, très fougueux, dont on retiendra évidemment cette phrase « L'amour avec une femme, deux points, une tempête ». Patricia, ça tu as aimé ?
Est-ce que tu penses que c'est vrai, quand on dit ça ?« L'amour avec une femme, une tempête »
Mais je te rappelle non, que c'est, mais tu, mais c'est ça, moi tu qui ai l'émission.
Tu pourrais, mais on a quand même le droit de te poser une question. Serais-tu d'accord
c'est
avec l'auteur ?
C'est une femme qui l'écrit.
C'est une femme qui l'écrit, évidemment. Non, tu parlais de Duras ou d'Annie Ernaux.
Non, je ne parlais pas. Je dis que non, mais c'est les deux noms qui sont revenus dans toute la critique.
Et l'auteur les cite dans le livre.
Il y a des accents raciniens. Enfin, on pourrait presque penser aussi à...
Ah bah oui, il y a... Pas le style.
Ah ben non, mais sur l'amour et la mort mêlés, précisément, sur comme si le pendant du désir était forcément le désastre. Moi, je trouve que c'est... ou la détresse, enfin c'est très très fort. Quand elle parle d'altération de l'état général, on est vraiment dans le registre de la cassure et de la maladie presque, enfin de la douleur. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cet équilibre entre les deux parties, c'est-à-dire cette femme qui est un volcan, un vampire, d'ailleurs elle la traite de vampire au début, qui prend absolument toute la place, et ensuite cette tentative de cette sidération d'abord, dans la deuxième partie, qui la frappe, donc la narratrice, et qui tente de se reconstruire toute la partie en Italie, l'occupation de cet appartement, l'endroit. Non, mais c'est pas que ça. Non, mais c'est pas mon lac en plus. Alors donc.
C'est pas mon lac.
Non, c'est pas mon lac.
Parce que tu as un lac.
J'ai un lac, tu savais pas. Et je trouve que ça sonne très juste. Et il me semble que cette femme est la fille de Jean Delarbrois, qui a écrit un autre livre qui est absolument magnifique, Pense à parler de nous chez les vivants, qui était un livre sur sa grand-mère. Et je me dis que dans cette famille, si c'est sa fille, je me dis que dans cette famille, on s'est vraiment parlé d'amour, parce que c'était un livre d'amour pour sa grand-mère absolument sans nuance. Enfin,
Frédéric ?
Sans compromis.
Pour le plaisir du débat, moi, alors ça ne se fait pas d'attaquer un premier roman, respect pour la jeunesse et tout. Mais est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop sur ce remake saphique de Love Story c'est-à-dire quand même, c'est ça hein, en gros. Il y a eu d'ailleurs un autre Avatar qui était Nos étoiles contraires de John Green, grand succès mondial. Voilà, deux personnes s'aiment. C'est vrai que c'est on peut pas ne pas être sensible à cette
passion.
Mais est-ce que tu peux
comprendre ça, toi ?
Si, bien sûr, j'ai un cœur qui bat. Mais... ce qui me gêne, c'est justement ces références constantes à Marguerite Duras, et dans les répétitions notamment. Alors, page 18, elle est trop maquillée. Page 20, elle est trop maquillée. Ben oui, c'est exprès. Après, elle écoute India Song. Ensuite, elle est vivante, revient sans cesse. Forcément, elle est vivante, vu que ça finit mal. Alors, c'est exprès.
Mais c'est pas parce que ça finit mal qu'elle écrit ça. Non, mais elle est vivante parce que c'est une tornade, cette fille.
Oui. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vivante.
Ah, oui.
Oui. Alors voilà, non, c'est voulu. C'est aussi, pardon, un peu lourd. C'est un petit peu lourd. Sarah commande une bière et la narratrice, pareil, exactement pareil. Une fois, deux fois, trois fois. Et ensuite, au lit, j'ai jamais fait l'amour avec une femme. L'autre dit, pareil, exactement pareil. Je suis désolé. C'est puéril quand même. C'est un peu embarrassant à la longue. Je suis désolé, pardon, de ne pas être excité comme vous.
Olivia.
Mais c'est parce que tu deviens bête quand tu es amoureux. Moi, je trouve que c'est la moitié de Marguerite Duras quand même, parce que il y a deux parties très distinctes. La première partie est flamboyante. Moi, je trouve que même ce que tu notes, c'est parce que
la partie sidération.
Et je trouve que c'est bien fait parce que elle résonne vraiment comme une chambre d'écho pour tes propres sentiments. Et en même temps, c'est l'histoire de deux femmes sans que jamais ça soit abordé comme l'histoire de deux femmes.
Ah bah si.
Bah, Non, ce n'est pas le sujet du livre.
Quand c'est même.
Si.
Moi, je trouve pas, justement. Je trouve que c'est fait avec une sorte de naturel saisissant.
Il faut raconter qu'aucune des deux n'avait été avec une femme.
C'est ce que j'ai dit en préambule.
Oui, mais c'est quand même le point.
Mais c'est
très important.
Je trouve que ce qui est fort dans le livre, c'est que c'est l'histoire de deux femmes qui n'ont jamais été avec des femmes.
En fait, c'est l'histoire d'un amour
mais
qui n'est pas sexuel.
Peu importe que le fait qu'elle soit, je ne sais pas comment dire, lesbienne, en tous les cas, le temps de cette histoire, n'existe pas. Et ça, je trouve que c'est assez malin.
Moi, je suis d'accord avec Olivia, absolument.
Voilà. Non, mais sur le même sujet, d'ailleurs, notons qu'il y avait eu Playboy de Constance Debray qui était autrement plus violent, subversif,
intéressant. Ah, mais
c'est pas du tout le même livre. C'était pas la même chose.
Parce qu'en fait, j'étais la lesbienne de choc, justement. Là, c'est pas du tout le cas.
Là, c'est juste une femme qui aime une femme. Après, mon problème à moi, c'est la deuxième partie où on a l'impression qu'elle ne l'a pas relue. C'est quand même très bizarre, cette espèce de différence, de style. Le style est quand même beaucoup plus faible. Et je trouve cette fille a énormément de talent. Bon, je trouve que la deuxième partie aurait gagné à être retravaillée. Mais évidemment...
Non, mais parce que la deuxième partie, elle est dans un état de sidération, c'est le silence, quoi.
Oui, mais je trouve que le style ne suit pas cette espèce de désespoir. Mais bon, la fille est douée, moi je lirai le deuxième, évidemment.
D'abord, c'est un grand roman d'amour, c'est juste ça. Quoi.
Oui.
Et sa force, elle est là, elle raconte une histoire d'amour qui va assez vite, en l'occurrence, ça va très très vite, et elle se rencontre, et tout de suite, c'est l'étincelle partout, pas simplement au lit, il y a le titre qui est absolument génial, ça raconte Sarah, parce que ce titre là il va devenir à mon avis totalement générique, quoi. Ça va être un titre emblématique, ça raconte Sarah, parce que c'est vraiment le livre du ça pour le coup, c'est-à-dire que c'est pas je raconte Sarah. C'est
comment ça s'appelle cette figure de style où ça tourne en rond?
Voilà, c'est ça raconte. Ouais, oui, en plus, les sonorités,
c'est
ça raconte ça.
C'est une figure de style, mais je ne sais pas laquelle.
Calmez-vous un peu là.
Non, mais c'est vrai. On a un livre merveilleux, et là, il faudrait chipoter.
Je chipote. Écoute, toi, quand tu m'en as parlé ici, moi, ça m'avait donné envie, parce que ça avait l'air d'être vraiment un truc où il y aurait du cul. En fait, c'est cucu.
Mais pas du tout.
Non.
Et la deuxième partie, on dirait un film d'Antonioni, c'est-à-dire la fille qui fait à Trieste. Moi, je suis jamais allé à Trieste, mais enfin, ça m'a vraiment donné envie pour le coup.
Frédéric Pajac, si tu veux connaître bien Trieste.
Oui. Voilà. Et donc elle est là et elle fait toujours le même parcours pendant des jours. Elle s'isole complètement et elle a elle a une fille et donc elle oublie tout le monde comme des espèces de devenir Beckettien. C'est magnifique, c'est vraiment le livre du rien, là. C'est-à-dire qu'on a eu le plein avec une espèce d'amour absolument incroyable, et soudainement, il y a le livre du rien. Ah non, mais moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et qui renouvelle complètement l'école de minuit, puisqu'il y a une école de minuit.
Où il y a d'ailleurs plus d'hommes que de femmes. Ah oui. Ça raconte Sarah aux éditions de minuit, et c'est signé Pauline Delabroix à l'art. En marche! Ça vous rappelle quelque chose, ça, non? c'est chez Gallimard, un roman sous-titré « Fable philosophique » de Benoît Dutertre, 58 ans, dont on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il se présentait à l'Académie française au fauteuil de Michel Déon. Il va être en concurrence avec Pascal Bruckner.
Ouais. Voilà. Beau match.
Peut-être que Pascal Bruckner va retrouver son grand ami à la fin de quelque autre. Bref, un jeune député constructif, Thomas, entreprend un voyage d'études en Rugénie, qui est un pays imaginaire, ça vous l'avez compris, des Balkans, et qui est réformé par l'économiste Stepan Gloss, dont Dutertre, évidemment, va s'employer à persifler les villes sans voiture, les fermes du bonheur, les championnats de la diversité, ou encore les hipsters épris de tri sélectif, bref, une fable. Où Dutertre, dont je rappelle que c'est un fan à la fois de Milan Kundera et de Philippe Murray, se réclame ouvertement de Voltaire. Alors, vous marchez ou vous ne marchez pas, Olivia?
Ah non, je piétine, moi, personnellement. Je ne marche pas du tout. Ça avait tout pour être drôle, et puis c'est pas drôle du tout, et c'est très ennuyeux. Imaginez, en fait, le pays qu'il décrit, ça serait une sorte de pays régi par... les idées d'Anne Hidalgo.
Ah, c'est ce que j'allais te dire, c'est Anne Hidalgo.
Un petit peu Benoît Hamon, tout ça puissance 100 000. Donc ça veut dire.
Et puis un peu Emmanuel Macron aussi.
Oui, enfin, oui, pas tellement dans le livre, je trouve. C'est un pays où, donc, si vous regardez une femme dans le bus, eh ben, vous êtes évidemment tout de suite agressé et on vous dit faites-vous soigner, votre sourire était blessant pour la dignité des femmes rougennes. Il y a un truc sans doute vrai, mais je vois pas très bien ce qu'il veut dire par là. C'est un truc, vous pouvez pas fumer dans la rue parce qu'il y a des caméras qui vous enregistrent et donc si vous êtes malade par la suite, vous ne serez pas pris en charge par la sécurité sociale parce que ça sera bien de votre faute, tu l'auras bien voulu, couillon.
Les Anglais avaient pensé à faire ça.
C'est, vous arrivez dans les hôtels, vous avez une petite serviette de toilette qui fait la taille d'un mouchoir parce que évidemment, je sais pas ce qu'il veut dire en fait.
Si, c'est ça qu'imaginer. Il dénonce le politiquement.
Oui,
bah
oui,
de,
bon, bah voilà,
de, mais de l'époque, ça, si, mais, ça c'est clair.
Oui, alors bon, je vois ce qu'il veut dire, mais il le fait pas de manière très habile, ouais. Parce que c'est pas très incarné. Puis ça devient quand même un peu réac, du coup. Moi-même, qui, vous voyez, ils mangent tous de l'avoine et tout. Moi, qui suis carnivore pour vraiment les bons rosbifs.
Tu manges pas d'avoine, toi?
Ah non, jamais. Non ah non, l'avoine ne passera pas par moi. Non, non, non. Moi, j'ai poussé des cris d'ennui et oui, j'ai poussé des cris
Arnaud,
d'ennui.
Pas l'avoine, mais j'aime bien.
J'ai envie de manger un steak.
Tu manges de l'avoine, toi ?
Non, je mange du quinoa, moi. Comme Mélenchon, en fait, là, c'est le côté mélenchoniste.
T'es un homme
régime quinoa, ça marche pas trop, d'ailleurs.
C'est quand même beaucoup moins bon que les spaghettis bolognaises.
C'est clair.
C'est clair.
En fumant une clope.
En fumant, bah bien sûr.
En tout cas, c'est intéressant tout ça.
Il y a quelque chose de hyper acide dans ce livre. En fait, il n'est pas drôle, il est acide. Par exemple, c'est un pays.
Je rappelle son nom, c'est la Rugénie.
La Rugénie, qui est connue quand même pour ses montagnes, et donc notre jeune député En Marche veut donc découvrir ces montagnes et d'ailleurs déguster le plat local.
Ah bah dis-le, comment il s'appelle le plat local?
Je ne sais plus, j'ai oublié son nom. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il découvre que finalement, une des principales économies de ce pays, c'est que ces montagnes servent pour des motocross. Donc voilà, c'est espèce de, c'est en fait tout est à vendre. L'autre industrie du pays, c'est qu'une compagnie d'assurance privée en a fait un lieu pour les handicapés physiques. Ils finissent leur vie là, dans cette ville, parce qu'ils sont chassés, évidemment, des centres-villes des grands pays occidentaux, parce que les loyers coûtent trop cher, et donc on leur dit, oui, mais une assurance privée leur dit, oui, vous pouvez aller en Rugénie, vous allez voir, c'est très beau, c'est au pied de la montagne, ils leur disent pas qu'il y a des motocross dans la montagne, et il y a quelques pages où il y a un personnage, donc une femme qui est handicapée et qui raconte sa vie. Elle est née dans les années 60. Et en fait, là, il y a cinq pages qui décrivent très exactement, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'a été le devenir, disons, de la social-démocratie occidentale. Et il y a un don de synthèse là, qui est effectivement assez proche de... C'est même plus que Philippe Muret. Il y a un niveau là de... comment dire, d'analyse politique qui est absolument stupéfiant. Le problème, à mon avis, du livre de Duteur, c'est que c'est Voltaire. C'est ça qui marche pas.
Ah oui, c'est la fable.
Il est quand même, dans son livre, il est le cul entre deux chaises, entre vouloir vraiment dénoncer, essayer d'en rire, et du coup, ça donne vraiment quelque chose de très acide et qui,
mais ça,
je suis d'accord
il
avec
a,
toi,
il a,
ne fonctionne
qu'à moitié. Il l'a déjà fait dans quelques livres, hein. C'est pas la première fois.
Non, mais il a fait des bons livres.
Moi,
j'ai l'impression qu'il en fait un sur deux, Benoît Duteur. Il y a des livres de lui que j'adore.
Le précédent livre pour adultes, qui est un livre sur la mort, mais qui est un livre absolument
très, très bon.
admirable.
Et puis un livre, il avait fait un livre sur les vaches, qui était formidable. Oui.
Il y a deux Benoît
Frédéric.
Duteur. Il faut bien comprendre qu'il y a deux Duteur. Il y a un Duteur qui fait des récits autobiographiques, c'est l'arrière-petit-fils
de René Coty.
Et il y avait un livre qui s'appelait Un été 76.
Voilà, avec les balais rouges.
En Normandie, très charmant. Donc il y a ces récits personnels, intimes, sa découverte de Paris, du palace, de tout. Et puis alors il y a des satires. Il fait beaucoup de satires depuis longtemps. Là j'ai regardé Gaieté parisienne, Drôle de temps, Service clientèle, c'était très bien sur un type qui arrivait pas.
C'était drôle.
Qui tombait sur des répondeurs en permanence, comme c'est maintenant la norme. Bref, et donc il dénonce.
Il y avait aussi un livre où il dénonçait les poussettes dans les rues de Paris.
Oui, il continue là, quand même.
Oui,
c'est un livre contre la politique d'Hidalgo pour le vélo.
Les trottinettes.
Ouais, les trottinettes.
C'est vrai que, le problème de ce genre de satire, c'est à la Marcel Aimé un peu, c'est que c'est de la caricature. Alors il faut que ça soit marrant. Si tu ris pas, c'est raté pour toi, Olivia. Mais moi, je trouve que quand même, il met le doigt sur un truc vrai et qu'on voit d'ailleurs tous les jours.
C'est quoi?
C'est la contradiction totale entre l'écologie et l'économie.
C'est le truc dans lequel on est aujourd'hui, mais vraiment tous les jours, si vous regardez les JT, c'est...
Oui, l'exemple du motocross, c'est vraiment parfait, quoi.
C'est terrible.
On loue la montagne pour faire du motocross.
Les gilets jaunes, c'est ça, c'est cette histoire-là aussi. Alors voilà, t'es tout le temps en train de dire, il faudrait changer le monde, mais on n'y arrivera pas, et on faudrait renier sur nos libertés. Mais à ce moment-là, tout le monde se révolte. C'est vraiment insoluble, et je trouve que c'est intéressant, parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, il va se payer Emmanuel Macron, mais en fait, c'est plus, disons, haut de gamme que ça. C'est une vraie réflexion sur le politiquement correct, la liberté, la contradiction entre les deux.
Et toi, tu manges de l'avoine ?
Jamais.
Patricia ?
Moi, j'ai adoré ce bouquin. Moi, je trouve que c'est un grand fantaisiste, ce type. Parce que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est caricatural. Moi, je trouve qu'il nous tend un miroir. C'est le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire un monde, au fond, où on est, qui est assez fascisant, quand même, où le rôle des libertés individuelles... Enfin, tu vois que les gens...
Complètement.
On fait croire aux gens qu'ils sont libres. En fait, ils le sont pas. Qui est hypocrite, qui est factice, qui est hygiéniste, qui est ultra-codé. Enfin, quand tu vois le relais du silence, enfin, tout ça est fabriqué. La ferme du bonheur, où les femmes... les vaches sont parquées dans un hangar hors sol pendant que les mômes se roulent dans du foin qui ne sert à rien puisque les vaches sont hors sol. Quand elles pètent, ça fait marcher une turbine l'uniformisation du monde, ces boutiques de marque qu'on retrouve partout, sur les agences de notation qui foutent les pays par terre. Ce n'est qu'un monde d'injonction. Et l'ancien monde est au musée. Parce que c'est là qu'elle est. Même les poules sont en costume, en fait. On a des rôles. T'as une basse-cour où les poules jouent leur rôle de poule.
Il y a quelque chose d'orwellien, d'ailleurs.
Mais absolument. Moi, j'ai trouvé que c'était. C'est une très belle femme. J'ai beaucoup, beaucoup ri. Mais on rit jaune, oui. Parce que tu te dis. Quand tu sors de chez toi, finalement, tu vois pas autre chose que ça.
Il n'y a pas de solution, c'est ça qui est terrible.
Il y en a sûrement, mais elles sont courageuses.
N'exagérez pas non plus. En Marche, chez Gallimard, et c'est Benoît Duterte. Alors maintenant, un très très gros roman en deux volumes. J'ai pas tout lu, donc je vais faire le résumé jusqu'à l'endroit où je me suis arrêté. C'est donc Le meurtre du commandeur du japonais culte Haruki Murakami. Donc roman fantastique, deux volumes, traduit courageusement par Hélène Morita chez Belfond, soit quand même l'équivalent...
J'aime bien quand il donne son avis.
...de 800 pages. L'histoire d'un portraitiste que sa femme quitte pour un autre, après avoir erré dans une... Ah, j'aime beaucoup ça, une vieille Peugeot 205, comme quoi vraiment, même au pays du soleil levant, notre bonne voiture du Lyon, elle résiste, il trouve refuge dans la maison d'un grand peintre japonais. Là, ça va, en pleine montagne, où un voisin très riche lui demande d'exécuter son portrait. C'est alors que lui apparaît, seulement visible par lui, ça c'est très important, un nain de 60 cm de haut, qui est la réplique exacte du personnage peint sur un tableau sanglant qui est intitulé « Le meurtre du commandeur » et qui se trouve dans le grenier. Voilà, après je me suis arrêté. Arnaud ?
Eh ben, tu as parfaitement résumé ce livre. Hein.
Alors, c'est-à-dire je suis allé jusqu'au bout.
Oui, non mais tu as tout dit. Hein. C'est-à-dire que donc, le type... T'as oublié de dire qu'il trouve un portrait caché. Il s'installe dans un chalet dans la montagne.
Oui, c'est ça, parce que c'est ça, je
dis. Non, il trouve un tableau caché, ce chalet appartenait déjà à un peintre.
Oui, absolument.
Voilà. Il y avait aussi une espèce d'histoire de la peinture japonaise qu'il a été apprendre, le vieux peintre à qui appartenait cette maison. Donc l'autre, le jeune, qui est spécialisé dans les portraits, mais pour le fric. Qui n'a plus de désir pour rien, sa femme l'a quitté, et donc se retrouve dans ce chalet perdu, trouve un tableau qui était caché, et en plus, donc il y a son voisin de l'autre côté de la vallée, très riche, qui lui demande un portrait, et là, il y a un petit Bouddha enterré dans le jardin, qui fait de la clochette, et là, j'ai eu l'impression que Murakami, c'est un peu le type qui rentre dans le magasin de farce à trappe et qui dit, alors, donnez-moi le coussin péteur, s'il vous plaît, et puis, j'aurais besoin des pétards aussi, et puis, alors, le masque de Georges Marché, vous me le donnez aussi, hein, et puis, je vais faire une histoire avec tout ça. Le gars, il a pris tout. Hein, le portrait de Dorian Gray, le Don Juan,
qui est la grande référence.
Oui, qui est la grande référence. L'opéra, le fantôme de l'opéra, Vienne, les nazis. Allez, hop, je te prends tout et je vais te faire une histoire. Mais en plus, qui va être métaphysique. Tu vas voir, hein, ça va être un peu métaphysique. D'ailleurs, le titre, là, ça s'appelle Une idée arrive avec un I majuscule à idée, attention. Hein. Et après, c'est quoi? La métaphore se déplace, le deuxième tome. Oui. Vous avez envie de lire La métaphore se déplace? Là, déjà, si vous arrivez au bout de une idée est arrivée avec un grand
mais comme c'est signé Murakami, ça marche déjà du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Patricia, tu as aimé, toi, ces 800 pages?
Moi, je suis sans voix, j'ai trouvé ça, mais magistral. C'est magistral.
Ah ouais. Qu'est-ce que tu fumes, toi, en général?
Mais non, mais... Ah ouais. Enfin, je suis désolée, mais il a d'abord un art de la narration extraordinaire, avec une élégance, un calme apparent, alors que ce type, à l'intérieur, il est absolument bouillonnant. Moi, j'ai été hypnotisée. Il a une façon de suggérer les choses. Il y a un va-et-vient. Alors, tu parles de métaphysique, mais il y a un va-et-vient précisément entre la métaphysique, parce que tout ce qu'il dit sur l'art, mais aussi sur la guerre, et tu sais qu'il est en train de se faire flinguer sur les réseaux sociaux parce qu'on l'accuse de prendre le parti des Chinois, etc., pour avoir le Nobel au sujet de ce qu'il dit de la guerre sino-japonaise. Mais aussi du domestique, il a une façon de parler. Il se fait beaucoup à bouffer, il va faire des courses. Enfin, il est beaucoup question de ça, parce qu'évidemment, le pauvre mec, de toute façon, déjà avant, sa femme ne faisait rien à la maison. C'est lui qui préparait tous les repas. Mais il est beaucoup question de ça aussi. Mais moi, je trouve que moi, je suis restée, mais scotchée à
800
celui.
Pages. Tu parles des 800
pages.
Ah
oui, mais complètement. Alors, mais vraiment.
Tu as lu jusqu'au bout.
Ah, j'ai lu jusqu'au bout.
Le deuxième tome, il est bien.
Les scènes d'amour. Les scènes d'amour, moi je les trouve mais géniales. Personne ne parle de l'amour comme ça.
On dirait qu'elles sont écrites par un adolescent de 14 ans et
mais
demi.
Mais non, par un type qui a peut-être jamais fait ça de sa vie, mais on s'en
comme
fiche.
Comme Pierre Guillotin, alors peut-être.
Ouais. Ah, moi j'ai adoré ça. Ils font ça de façon très, très mécanique. Et en même
tu
temps.
Parles de quoi là?
De l'amour, quand une de ses maîtresses par exemple vient le rejoindre.
Oui, eh bien.
Eh bien, ça se passe d'une manière attendue, on va dire. Mais sous la cendre.
Ah oui, t'es,
ah
oui. Ouais.
Ah non, moi j'ai trouvé ça.
T'es quand même très en demande pour l'instant.
Bah écoute, on compense comme on peut à un certain âge.
C'est l'avantage des gros livres. C'est
l'avantage des gros livres. Ah non, mais moi je suis retournée à ce bouquin. À chaque fois,
oui,
j'y retournais.
Non, calme-toi, c'est bon, tu dis ce que tu voulais.
Voilà, c'est génial. Frédéric. C'est génial.
Il y a un autre moment où le narrateur fait l'amour avec une femme qui ne ressent aucun plaisir.
Oui, bah ça, c'est dommage pour le monsieur.
Malgré d'ailleurs l'utilisation d'un gel lubrifiant.
Bah, pour la dame, mais c'est que le monsieur s'y prend peut-être pas très bien.
Eh bien, moi, je suis cette femme.
Voilà. Moi, j'adore Patricia.
Je suis cette femme, je n'ai
dommage
ressenti
aucun...
Dommage pour
la dame, Patricia, quand même.
Oui, mais parce qu'elle aurait pu choisir un monsieur qui savait y faire.
Ah bah oui, mais on ne sait pas. C'est pas marqué sur leur visage.
Bon, on va
avancer le débat sur la.
On va avancer, Frédéric. Voilà.
C'est bavard, c'est délayé, c'est mou. Tout est expliqué 20 fois, 30 fois, ça se répète.
Mais la vie, c'est ça.
Oui, oui, d'accord. Bah oui, mais la vie n'est pas nécessairement.
On essaie de lire des livres pour avoir une vision qui peut sublimer l'existence.
Mais c'est sublimé.
Moi, je trouve que la vie est beaucoup plus courte que ce livre.
Quand il fait un café, le gars, c'est.
Ah oui.
C'est 15 lignes.
Oui, c'est vrai.
Vous voulez du café? Oui, je veux bien un café. Non. Vous le voulez frais?
Moi, je suis désolée.
Non, je ne voudrais pas frais.
Moi, je suis désolée, j'ai adoré. Je sais que tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu as aimé le nouveau roman. Moi, j'adore, si tu veux, la description d'une poignée de porte pendant deux pages, ça ne me gêne pas.
Mais tu n'as rien dit de la Peugeot 205, hein?
C'est vrai. Non,
j'ai l'impression qu'il a voulu faire long pour pouvoir vendre deux tomes, quoi. Pas mal. Mais non. Alors, quand le nain apparaît, là, c'est quand même assez rigolo. Ça fait évidemment penser à David Lynch. Hein, quand il y a un nain dans un film de David Lynch, c'est le moment où on décroche, quoi. On comprend plus rien, généralement. Et ça ressemble beaucoup. Hein, c'est le même genre de. Et ce qui est un mystère pour moi, le mystère de Murakami. Bon, d'une part, c'est millions d'exemplaires, mais aussi que c'est un type qui au départ avait un bar de jazz à Tokyo, qui est un traducteur de Salinger et de Fitzgerald en japonais. Comment il en est arrivé à nous prendre pour des cons à ce point-là? Franchement, je ne comprends pas. C'est un mystère.
Olivia,
je sens qu'elle a pas.
Mais moi, je peux faire une confidence, c'est que je n'ai jamais réussi à finir un livre de Murakami. Tu nous en as donné.
Oui, j'ai donné le gros qui s'appelait 1984.
Voilà. Ouais. Et à chaque fois, je me dis non, mais là, je vais
c'était
enfin.
C'était un manga. C'était un truc adolescent, mais.
C'est voilà. Moi, je sais pas. Je me sentais bien pourtant. Je me suis dit, je vais enfin. Réussir à comprendre.
Il y a un côté Laurent Baudet japonais, là, quand même, qui est un peu...
Et alors, Arnaud a raison. Bon, d'abord, moi, les livres où les gens racontent tout ce qu'ils mangent, grain de quinoa par grain de riz, moi, ça me casse les pieds. Et le pire, c'est ce qu'ils boivent.
Patricia.
c'est ceux qui le boivent. Et ça m'a fait penser, vous savez, au mauvais livre américain où il y a toujours les femmes, elles rentrent le soir et elles se font un verre de vin blanc chardonnay et pendant une heure, elles racontent la taille du verre, le tire-bouchon.
Ça, c'est vrai qu'il va souvent sur la terrasse se boire un verre et il observe son voisin.
Beaucoup, beaucoup de verres. Moi, je trouve qu'il y a plein de descriptions qui ne servent à rien. La dimension fantaisiste, fantastique, je ne comprends rien. Je n'ai rien compris, parce qu'il y a une cloche qui sonne aussi tout le temps.
Mais oui.
Je n'ai rien compris à l'explication de la cloche.
Oui,
si ce n'est que c'était un peu dégoûtant, un cercueil, machin.
Ouais,
je n'ai
Bouddha
rien compris.
Qui
et
la
je pense qu'en fait, le gros, gros problème, c'est que cet homme n'a aucun humour. Mais
ah non,
aucun,
ça, aucun. Aucun. C'est très sérieux.
Et donc, c'est 800 pages.
C'est
pas, c'est à la un, fin, moi, j'ai regardé pour essayer de voir
pas notre
si je comprenais.
Tournure d'esprit. C'est tout.
Mais zéro c'est humour, culture. Je pense que moins d'humour, bon. Ça n'existe pas. Je
Lisez
cherche
Murakami.
Le meurtre du commandeur, c'est donc Murakami qui sort un troisième livre.
Ah, chic.
Oui, troisième tome.
Non. Je sais quoi, ce que
Ils
je vais faire de mes soirées.
De la musique, toujours.
C'est long.
De la musique, non, c'est
je vais te l'envoyer.
Chez Belfond, et ce
pas
sont
très.
Ses entretiens du Murakami, grand
ah oui.
fan de jazz,
jazz,
avec le chef Seiji Ozawa.
Voilà. Que c'est bien.
Ah,
le seul
génial.
Qui était bien, c'était celui où il racontait comment
Allez,
il courait.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Ça,
ah oui, il courait absolument.
Ouais.
C'est aussi un jogger. Ouais. Allez vite, Monkey Diaries qui couvre les années 57-82 chez Fayard. C'est le premier volume du journal intime de Jane Birkin. Ça fait 60 ans, en effet, que Jane Birkin parle à son monkey, son petit singe en peluche que son oncle avait gagné dans une tombola et qui lui avait offert un singe immortalisé sur la pochette, vous le savez, de Melody Nelson et qui ne l'a jamais quitté jusqu'au jour de mars 91 où Jane a confié ce petit singe au grand amant de sa vie, Serge Gainsbourg. Là, je la cite, « J'ai déposé Monkey dans les bras de Serge, dans le cercueil où il reposait, tel un pharaon, mon singe, pour le protéger dans l'après-vie. » Voilà, donc c'est un journal qui est rédigé en anglais, il faut le savoir, qu'elle a elle-même traduit en français, et où elle raconte tout, son enfance, entre son père officier et sa mère comédienne, Jenny Campbell, je le rappelle, ses années d'internat, son mariage en 65, avec le compositeur de musique John Berry, dont elle a une fille, Kate. Sa rencontre, enfin, en 68, c'est l'essentiel du livre, bien sûr, sur le tournage d'un film de Pierre Grimblat, parce que oui, Pierre Grimblat a fait
Slogan.
Du cinéma, avec le grand Serge, un amour qui
super
va être passionnel. Quoi
enfin, non, pas super film, mais quand même, film très
amusant. Mais qu'il est connu comme producteur, ouais. On a oublié ouais. qu'il avait été quand même le réalisateur de ce film. Séparation, évidemment, aussi violente que leur passion, à la fin, Jane vivant avec Jacques Doyon et Serge avec Bambou. Le deuxième tome paraîtra, même le second, parce qu'il n'y en aura pas de troisième, en 2019. Il y a en plus des petits dessins qui s'ajoutent de temps en temps, des jolis croquis d'ailleurs, à ce livre. Frédéric.
Alors, ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'il y a...
Je ne peux pas tout résumer.
Non, non, mais il y a le journal, les carnets de Jane Birkin, donc quand elle était enfant, puis adolescente,
oui.
puis...
Oui, je n'ai pas dit voilà. qu'elle retouchait.
Et qu'elle fait des commentaires
elle
aujourd'hui.
Retouche, voilà. voilà. Dans un caractère elle différent,
oui.
elle ajoute pour peaufiner, mais
oui.
en revanche, pas pour corriger, mais pour augmenter...
Oui, pour remplir les vides, hein,
voilà.
quand il y a
les
quelque
vides.
Chose qu'on... qui est passé sous silence.
Et en fait, je trouve que la partie écrite aujourd'hui est plus intéressante que les carnets de jeunesse. À mon avis, c'est là où il y a le plus d'émotions. Elle raconte, par exemple, les grues qui se baissent sur la Tamise au passage du cercueil de Churchill. Elle raconte sa rencontre avec Graham Greene. Elle est tétanisée et il l'engage pour le rôle d'une sourde muette. Elle raconte sa, alors la tournée avec laquelle Serge Gainsbourg l'a séduite, parce que c'est quand même une tournée extraordinaire. Donc ça commence chez Régine. Puis le Rasputin,
ah oui,
la Calabados,
cette nuit-là, hein.
et après Madame Arthur, ça se termine au hall chez les Bouchers. Alors voilà, donc retenez bien ça, parce que si vous voulez séduire une bombe atomique, ces endroits existent toujours. Je crois la plupart, sauf la Calabados.
Oui, enfin, les...
enfin c'est important.
Le petit déjeuner au hall, ça c'est fini. Hein.
Mm. Oui, il n'y a plus, ouais, peut-être il ouais, n'y a plus. Il y a peut-être
ça.
Chez Denise encore.
Mais...
Enfin.
Ah, je sais pas, je connais pas Denise.
Le pied de cochon. Le pied de cochon. Non, enfin, bref, c'est, non, évidemment, c'est un document passionnant sur cette époque, sur cette, c'est une histoire incroyable parce que c'est inouï. C'est quand même une pensionnaire de très bonne famille, d'une famille assez coincée, qui se retrouve sexe symbole à scandale, d'abord dans Blow Up d'Antonioni, puis à chanter Je t'aime moi non plus, qui est un scandale mondial. Et elle cache d'ailleurs les gémissements à ses parents dans une scène assez drôle. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment, on apprend énormément
puis
de choses.
Cette scène où elle demande à Serge de l'emmener à Pigalle.
Oui, dans un hôtel de passe.
Dans un hôtel de passe pour se déguiser en pute. Enfin,
oui. Et le patron vient taper à la porte parce qu'il a peur que ce type, avec un physique étrange, tue la jeune femme.
Olivia ?
Oh ben moi, j'ai adoré. Je trouve le livre le plus romanesque de tout ce programme. C'est un mélange de très grande fantaisie, parce que les parents, ils sont coincés, mais ils sont aussi très fantaisistes. La mère, elle recrute pour ses enfants les jeunes filles au père les plus jolies, afin qu'elles servent de modèle pour son mari peintre, hein, qui est absolument le contraire de ce que nous faisons, qui n'avons pas de fantaisie. On les choisit le plus laid possible. C'est un livre qui est, je trouve... empreinte d'un très grand désespoir, parce qu'elle n'a aucune estime pour elle-même.
Elle doute beaucoup d'elle.
Elle doute d'elle-même.
Tout le temps.
Ce qu'elle fait de scandaleux, c'est toujours pour épater les hommes qu'elle aime. Elle accepte de jouer nue dans Blow Up parce que John Barry lui dit « Mais quand on fait l'amour, tu éteins la lumière ». Elle enregistre « Je t'aime moi non plus » parce qu'elle est très très jalouse. Et c'était Mireille Darc qui devait le faire. Et elle dit,
et c'est Bardot qui l'avait chanté avant.
Voilà. Mais l'idée d'avoir Serge enfermé avec Mireille Darc dans une petite cabine lui semble insupportable. Elle a le sens de la scène,
la naissance. Il était largement autant qu'elle, à part ça, jaloux.
Ah oui, parce qu'il y a des scènes folles. Il y a une scène chez Castel.
Des scènes d'une très grande violence, d'ailleurs.
Il y a une scène folle. Alors, en plus, elle mélange parfois des mots anglais que je trouve assez jolis. Elle dit, on avait eu un argument, une dispute. Elle lui lance une tarte à la crème, à la figure, au premier étage de Castel. Elle s'en va, il la poursuit. Et là, elle dit, il fallait que je tente un truc exceptionnel. Elle se jette dans la scène, exactement comme Kate dans Jules et Jim. Et là, elle est drôle et elle dit, Serge avait décidé d'aller me chercher, mais il enlève d'abord sa Rolex avant de sauter. Et puis là, les pompiers arrivent.
C'est la première fois qu'elle écrit à quel point elle ne supporte pas l'alcoolisme de...
Ah bah bien sûr. Mais c'est un livre... J'ai rarement lu une pareille mise à nu.
Mise à nu,
d'une
absolument.
Personnalité publique.
Oui.
C'est splendide et passionnant.
Arnaud ?
Magnifique. Non, c'est magnifique. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'on on connaît tous la voix de Jane Birkin et on l'entend.
Dans l'écriture,
on l'entend parler. Absolument. En fait, on ne lit pas. Ouais, elle nous raconte absolument. L'histoire. Et il y a des histoires absolument merveilleuses. Il y en avait une que je connaissais parce qu'elle est dans la biographie de ce pauvre Gilles Verlan qui nous a quittés, la biographie de Gainsbourg. C'est une histoire que j'adore, c'est quand ils sont en Bretagne, je crois, et ils vont dans un bar, et ils boivent des coups avec un type qui, puis bon, ça monte, ils boivent beaucoup, le type le dit, ah, je vous emmène chez moi, et là, arrivé, donc Jane, le type et Serge, le type prend un fusil et dit, maintenant tu chantes la micaouette, et en le menaçant du fusil. Et cette histoire, je la connaissais. Mais raconté par Jane Birkin, c'est juste mais fabuleux quoi. Il y a quand même c'est un très très grand amour entre eux quoi. C'est ça aussi que l'on voit, c'est qu'elle l'aime. Le jour où Serge Gainsbourg lui dit mon papa va mourir, et il lui dit comme ça, la page qu'elle écrit sur la détresse de Serge Gainsbourg, c'est juste mais grandiose quoi.
Et même quand elle est avec Doyon, elle continue d'écrire des lettres d'amoureuses passionnées à Gainsbourg.
Ouais. Ce qu'elle écrit à son beau-père, justement, qui vient de mourir. Et en plus, elle est enceinte de Charlotte. Elle sent le bébé qui bouge dans son ventre. Et elle dit, je vous aimais, petit homme. Je n'ai jamais eu le temps de vous le montrer. Je n'ai jamais eu le temps de promettre des choses. Est-ce que vous m'entendez?
C'est quand même mieux que Murakami, Patricia. Hein,
je ne ferai pas de commentaire. C'est absolument bouleversant, ce journal. Et c'est fou. D'abord... Alors, avec Gainsbourg, certes, ça a été un grand amour, mais enfin, il a quand même pas été que sympa avec elle, malgré tout. Et d'ailleurs, c'est presque au moment où ils se séparent. Mais c'est pas seulement la violence, c'est que il y avait une espèce. Quand elle dit que rue de Verneuil, elle n'a jamais été chez elle, elle se sentait jamais chez elle.
Elle avait une petite chambre.
Enfin bon. Et donc, il devait quand même être assez dur. Et c'est presque au moment où ils se quittent qu'elle se rend compte à quel point il tient à elle. Et quant à John Barry, j'en parle même pas. Enfin, elle se.
Un gros macho.
Il rentre de bosser, il est à moitié bourré, il se couche. Jamais il ne lui adresse la parole, quasiment. Ou alors c'est. Et moi, je me suis demandé parce que. Alors, je veux pas faire de psy de bazar, mais je me suis toujours demandé pourquoi au bout de 40 ans, je ne sais pas combien de temps elle est en France, oui à peu près 40 ans, pourquoi elle lit toujours Le Table par exemple. Eh bien, il y a peut-être quelque chose entre cette difficulté à adhérer au langage et à se sentir chez soi
dans une langue et le fait qu'elle ne se sent finalement chez elle nulle part. Parce qu'au fond, ça coule dans tout le livre.
Je trouve, c'est pour ça que je rejoins aussi Arnaud, je trouve que le fait qu'elle l'ait traduit elle-même, qu'elle ait voulu elle-même le traduire, oui. Ce qui n'est pas évident, hein, donne cette tonalité dans l'écriture, dans le style, dans la prose, qui rappelle exactement effectivement la sonorité
quand elle
de la
dit
voix.
Pauvre Serge, elle l'appelle de la voix comme ça. Ce qui est très émouvant aussi, c'est de se dire que là.
C'est beau qu'elle ait une voix que tout le monde connaisse aussi.
Elle n'écrit plus depuis que Kate est morte.
Oui. Et évidemment, on arrive à la fin, après cette séparation entre Serge et Diane, avec une envie, c'est de lire la suite, c'est-à-dire le deuxième volume qui sera en début donc, d'année prochaine, l'année 2019. Et donc, c'est Monkey Diaries, c'est 57-82, et c'est chez Fayard à Léon. Un conseil pour terminer cette émission, on va commencer avec Olivia.
Un livre très drôle, Le discours de Fabrice Caro. Chez Gallimard, Fabrice Caro, c'est un auteur de BD génial qui a fait une BD, je vois que personne ne connaît, qui s'appelle Zai Zai Zai. Bon, si vous n'avez pas lu ça, tant pis pour vous. C'est absolument formidable, c'est très très drôle. Et Le Discours, c'est une nouvelle collection de Gallimard. C'est un garçon qui vient d'être quitté par une femme, qui vient dîner chez ses parents, et son beau-frère, avec qui il a peu d'affinité, lui demande d'écrire le discours pour le mariage qu'il va faire avec sa sœur. Et c'est tout le dîner familial raconté d'une manière hilarante. Mais vraiment, et en même temps, c'est un livre, je trouve, très profond et très touchant sur ce qu'est un chagrin d'amour. Le discours de Fabrice Caro.
Le conseil d'Arnaud.
Alors là, c'est quelqu'un qui ne mangeait pas d'avoine, c'est sûr. C'est d'ailleurs, ce livre est conseillé aux véganes. C'est Un sacré gueuleton de Jim Harrison, qui est un livre... on connaissait Jim Harrison, romancier, on le connaissait novelliste, et là, on le découvre journaliste gastronomique. Et évidemment, c'est Jim Harrison, ça donne quelque chose de totalement pantagruélique.
Mais j'ai commencé à lire, et je me demande si on ne va pas l'inscrire à un des masques.
Ah, c'est un livre, mais...
Alors, avant Noël, ça peut être...
Oui, avant Noël, c'est vraiment bien. Oui, parce qu'il se fait des dîners. Et donc, là, on n'est absolument pas dans le politiquement correct. Il fume, il boit, et surtout, c'est du espèce de journalisme gonzo tout le temps. C'est extrêmement drôle, c'est magnifique, et puis vraiment, ça donne très envie de manger.
Et c'est chez
Flammarion.
Mon conseil, c'est le numéro de novembre de la NRF de notre cher Michel Crépu, avec un long et très beau texte de notre ami Philippe Lançon, dans lequel il dit adieu à son père qui est tombé malade exactement au moment où lui-même sortait de l'hôpital, plutôt des Invalides, comme s'il s'était passé l'un et l'autre le relais. C'est donc un complément au Lambeau, qui a reçu d'ailleurs le prix Femina, effectivement, cette année, où Lançon raconte comment aussi le 14 juin 2015, une voiture est venue le chercher aux Invalides pour le conduire, là où il ne savait pas, dans un appartement où Alexandre Tarot a joué pour lui et pour son père, avant qu'il meure, les variations Goldberg. C'était un texte d'une vingtaine, un peu plus de pages. C'est dans la NRF, c'est Philippe Lançon, et c'est vraiment, si vous avez été bouleversé, comme nous tous, par le Lambeau, c'est dans l'exacte et la même très belle tonalité.
C'est comme une suite, presque.
C'est comme une suite, absolument, un complément au Lambeau. Frédéric.
Le prix de Flore 2018 a été décerné à Raphaël Rupert pour Anatomie de l'amant de ma femme, aux éditions L'Arbre Vengeur. C'est le journal d'un homme trompé, et faire un livre réussi et désopilant sur ce vieux sujet du mari cocu, c'est vraiment une gageure. Il réussit totalement, parce qu'il y a à la fois toute l'histoire de l'adultère dans la littérature, il y a aussi des analyses très érotiques sur la fascination du mari pour l'amant. Parce que bon, je passe les détails, mais il y a pas mal de détails physionomiques, et ça fait penser un peu à Alain de Botton, Petite philosophie de l'amour, où il disséquait le sentiment et aussi la pornographie, le sexe, mais aussi au premier Philip Roth, à l'époque où il était comique et ne parlait que de sexe.
Le conseil de Patricia.
Le goût de la viande, c'est un premier roman. Ça n'a rien à voir avec l'avoine, les véganes ou les carnivores.
Le goût de la viande, vraiment,
mais oui, mais alors, je ne vous dis pas quelle viande. C'est un livre absolument hallucinant.
Mais dis-nous, quelle viande?
Alors, le goût de la...
C'est pas du cheval,
rat, et pire encore... Du rat et des humains, enfin en tout cas de la viande des humains qui se putréfient parce qu'on est dans les tranchées, c'est à Verdun, c'est l'histoire d'un Breton qui a une vingtaine d'années et c'est un soldat de la guerre de 14, même ne regarde pas comme ça, je t'assure, c'est un roman, c'est donc une histoire romancée.
Oui, et donc qui bouffe de... Non mais c'est ça que je comprends
voilà,
pas.
Voilà, et qui ensuite, je vous laisse découvrir ce livre, c'est de la dynamite. Et il est contraint de vivre toute son existence avec la culpabilité d'abord du survivant, et puis avec ce monstre avec lequel, qui est en lui, intérieur, et avec lequel il est obligé de cohabiter, et ce qu'il appelle une croûte de boue à l'extérieur. C'est absolument extraordinaire.
C'est chez
aux éditions Inuit.
Mais il ne faut pas le lire après le Jim Harrison.
Non. on mauvais mélange.
Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie, Patricia Martin, Frédéric Becbédé et Arnaud Vivian, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Jean-Michel Bernot, Nadège Antonini et Maël Onave. La réalisation était de Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le jeudi 29 novembre. Ce sera au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films, et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.